Bonjour, je suis Aurore et je vous accueille sur Doula Lire, le premier podcast qui vous donne la connaissance pour faire vos choix. En ce moment, entre les violences gynécologiques, le sous-nombre de sages-femmes et autres, il peut très vite nous manquer de connaissances pour faire des choix éclairés et de temps pour tout lire. Le savoir, c'est le pouvoir. Je vous propose donc des résumés de livres pour vous aider à choisir vos accompagnants de papier si besoin est. Ceux sur qui vous pourrez compter pour la grossesse, l'accouchement, le postnatal, mais aussi pour la conception, l'adoption ou le deuil. Grâce à eux, vous serez, je l'espère, légitime et serein dans vos choix. Bienvenue dans ma bibliothèque en périnatalité. Bienvenue chez Doula Lire. Ou plutôt, aujourd'hui c'est sa sortie. Je vous présente le nouveau livre de Hélène Goninet. Ce nouveau livre s'appelle « Journal d'une sage-femme nature » et est édité aux éditions Mama Édition. Alors pour vous présenter un petit peu cette autrice, c'est une sage-femme qui a été diplômée en 1992. Elle a exercé et exerce toujours en Ardèche. Pendant 20 ans, elle a accompagné des AAD, environ 50 naissances par an, je vous laisse faire le calcul. Et maintenant, elle prépare et accompagne les couples pour l'hôpital. Et quand on va voir ensemble son parcours, vous allez mieux comprendre pourquoi. Alors déjà, on va repartir au moment de ses études. Elle commence donc ses études après avoir elle-même accouché à la maison quelques années plus tôt, en 88, et elle les finira en 92. Et l'apprentissage du métier de sage-femme, ça va être très dur pour elle parce qu'ayant connu un AAD avec la liberté de mouvement, la liberté d'être, le choix qui était le sien, etc., il va s'avérer difficile pour elle d'apprendre le hands-on, c'est ce qu'on appelle le hands-on maintenant, à faire des accouchements à quatre mains, à apprendre à aller chercher le bébé dans le vagin, à tourner sa tête quand il sort la tête avant que le corps sorte. Elle va également apprendre à rompre les poches des seaux, à faire toucher vaginaux en systématique et à réaliser des épisiotomies de routine. Mais ce qui va vraiment la dégoûter, dirons-nous, c'est les soins du bébé. Elle parle d'un viol de tous les orifices du bébé, et il faut reconnaître que c'est tout de même assez impressionnant, notamment pour le bébé qui vient juste de sortir. Elle découvre aussi pas mal de choses qui se passent à l'hôpital, notamment par rapport au fait que le bien-être du personnel est toujours supérieur au bien-être du patient, avec notamment des sages-femmes qui ne vont pas attendre que ça se fasse naturellement, mais qui vont accélérer les choses pour ne pas laisser un accouchement de plus à leurs collègues de la relève d'après. Mais du coup, à quel prix et quels sont finalement... Est-ce que c'est vraiment une raison valable ? Elle parle des dossiers falsifiés avec des infos qui sont non notées ou mal notées au cas où il y aurait un procès. Je me permets de vous faire un rappel que la loi du 4 mars 2002 nommée loi Kouchner, impose une réparation judiciaire, voire pécuniaire, suite à une erreur, qu'elle soit de la faute ou non du médecin ou d'un autre professionnel de santé, soit dit en passant. Elle parle d'une chose que je n'ai pas encore vue dans un autre livre, c'est l'impact émotionnel des tests diagnostiques. C'est-à-dire que depuis les années 90-2000, il y a des tests qui sont faits en systématique, le test de trisomie 21, etc., avec derrière des fois 2 semaines, 3 semaines de latence avant que les parents aient le résultat. Et dans quel état sont ces parents pendant les 3 semaines où ils ne savent pas s'ils vont garder leur enfant ? Même si certains disent qu'ils le garderont coûte que coûte, il n'empêche que ça peut poser souci au niveau de comment on parle, on communique avec son enfant, de quelle relation on met en place avec ce fœtus, etc. C'est d'ailleurs en lien avec le fait qu'en France, l'accouchement n'est considéré comme normal que 2 heures après. Il y a une nuance qu'elle met bien en avant, c'est surtout une différence de timing. C'est est-ce qu'elle arrive au début de l'accouchement ou est-ce qu'elle arrive après la naissance et avant la délivrance. Notamment parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable et qu'il y a des fois où elle est prévenue assez tard du début d'un travail. Il y a eu des fois où ça aurait pu mal tourner si elle n'était pas arrivée à temps parce que les parents ne s'étaient pas rendus compte que la maman avait déjà perdu trop de sang. Et grâce à son transfert rapide, ça a pu être sauvé. D'ailleurs, c'est un des témoignages qui m'a le plus fait rire en soi parce que cette maman, ça finit bien, elle s'en sort, pas de problème. Mais c'était une famille qui avait des choix de vie différents de la norme attendue, dirons-nous. Et ils sont arrivés à l'hôpital pour son premier transfert à cette sage-femme, avec une petite fille enroulée dans des peaux de bête, avec la deuxième, la grande fille qui avait, je crois, 2 ans dans le livre, et qui n'avait, ils n'avaient pas pris le temps de l'habiller parce que le transfert s'est fait vraiment en urgence. Du coup, bah, elle était toute nue et puis elle dansait dans la salle. Donc, elle a eu des gros a priori sur sa pratique et sur les familles qu'elle accompagnait pendant longtemps, et elle a dû montrer pas de l'ange, dirons-nous. Mais le témoignage est assez drôle, du coup. Elle parle d'ailleurs de ne jamais supposer d'un accouchement. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête, dans le corps de cette femme, ce qui se passe dans ce bébé, qu'est-ce que lui il en dit. Un accouchement qui pourrait paraître très long peut finalement se révéler très rapide, et inversement. D'ailleurs, à ce propos, elle parle de la prise de confiance en tant que sage-femme. Elle a, pendant la première année, il me semble, accompagné une autre sage-femme qui pratiquait des AAD pour qu'elles soient deux. Et c'est seulement après qu'elle s'est mise à en accompagner seule. L'humilité et en même temps la prise de confiance nécessaire qu'il lui a fallu pour pouvoir accompagner en toute sérénité ses naissances. Et le fait que finalement on n'apprend jamais mieux que sur le tas. C'est-à-dire que cette maman qui avait perdu trop de sang, les fois d'après où elle est arrivée après que le bébé soit sorti parce qu'elle avait été prévenue trop tard, c'est l'une des premières choses qu'elle a vérifiées. Elle a appris de ses expériences. Elle met en avant, et ça j'ai trouvé ça super bien, dans plusieurs témoignages, le papa choisit de ne pas être là, ou d'être là, mais dans la pièce d'à côté. Ou alors la maman veut absolument qu'il soit là et il est là, mais en fait il passe son temps à aller dehors pour griller une cigarette parce qu'en fait il est angoissé, il est stressé, il y a un problème. Et j'ai trouvé ça très chouette de sa part de montrer ces différents cas de figure qui ne remettent en aucun cas en question l'amour que se portent ces deux personnes, mais qui remettent en question la nécessité que le père soit forcément là et qu'il tienne ce rôle si particulier d'accompagnant. Et qu'il soit juste là, mais à côté, finalement, ça peut être aussi bien, voire mieux, que si on le force à être présent. Et je trouve ça très très bien d'en avoir des témoignages. Elle parle de l'importance de l'accompagnement global et de l'écoute. Ça me fait chaud au cœur. À l'heure actuelle, une consultation avec une sage-femme libérale est entre 20 et 30 minutes, et elles sont rémunérées pour ces 20 ou 30 minutes, selon le barème de la Sécurité sociale. À part si elles ont des dépassements d'honoraires. Mais finalement, si elles vous écoutent pendant 2 heures, elles seront quand même rémunérées le coût d'une seule consultation par la Sécurité sociale. Ça ne va rien changer au remboursement. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, finalement, les mamans qui ont besoin d'écoute vont voir une doula qui va rester effectivement 2-3 heures selon le temps d'écoute nécessaire et vont être suivies pour les raisons médicales, puisque la doula n'a pas cette casquette-là. Elle sera donc suivie pour tout ce qui est médical par une sage-femme ou un gynécologue au choix. Au niveau de l'allaitement, il y a une notion qui m'a beaucoup plu, que j'ai pu retrouver dans d'autres livres, mais qui est quand même rarement abordée du fait du contexte occidental. Hein. C'est le fait que dans l'allaitement, une mère peut apprendre à un bébé qui n'est pas le sien à téter, si elle a déjà eu un enfant qui a tété. Parce qu'elle va avoir ce ressenti qui va lui permettre de modifier la position de la bouche, de son sein auprès de l'enfant, etc. Et inversement, un bébé qui sait très bien téter peut apprendre à une mère qui a des soucis avec sa lactation, avec son allaitement, à très bien allaiter. Alors, ça demande de la confiance, ça demande déjà d'avoir quelqu'un autour de soi qui a un bébé ou une mère allaitante, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est beau de voir à quel point les corps savent et à quel point ils peuvent enseigner. Et une notion que je n'avais pas, mais qui m'intéresse fortement, c'est le fait qu'il y aurait eu des études à retrouver dans le livre, selon lesquelles un biberon de complément dans le premier mois modifierait la flore intestinale notamment, avec tout ce que ça engendre. Et dans ma tête à moi, je n'aurais pas pensé que ce soit seulement un biberon. Elle parle de l'importance de ne pas couper le cordon ombilical avant qu'il ait cessé de battre, afin que le petit ait tout son sang, mais surtout qu'il soit oxygéné jusqu'au moment où il va commencer à respirer. Puisque c'est quand il va commencer à respirer que son cœur va se modifier avec la fermeture de la paroi entre les deux ventricules et que le cordon va cesser de renvoyer du sang vers sa mère pour seulement recevoir le sang qui lui est dû, le sien, qui se trouve encore dans le placenta. Lorsque le bébé aura reçu tout son sang, le cordon va cesser de battre et il pourra être coupé sans souci. Et enfin, et c'est ce qui fait qu'elle accompagne à l'heure actuelle des couples qui accouchent à l'hôpital, elle interroge beaucoup le comment accompagner pour que les parents s'affirment, notamment pour le Golden Hour, c'est-à-dire, alors c'est un concept plutôt récent, Golden Hour, mais durant la première heure du bébé, le bébé il vient quand même de sortir d'un hôtel 5 étoiles et on le plonge dans un taudis. La couveuse, s'il est en couveuse, elle peut bien être en plastique très très jolie. Pour lui, ça reste quand même assez différent de ce à quoi il était habitué. Et quels sont les choix des parents, sachant que, je rappelle, loi du 4 mars 2002, tout ça, les parents ne sont en aucun cas obligés de laisser leur enfant être emporté pour être pesé, lessivé de l'intérieur et de l'extérieur et habillé. Ils ont le choix de le garder, de le faire plus tard, etc. ou de pas le faire. Ça, à l'heure actuelle, c'est compliqué de dire aux parents « Attention, ils ne sont pas obligés. » À un moment où ils ne sont pas vraiment en état de prendre une grosse décision comme ça, c'est compliqué. Finalement, on leur poserait juste la question « Est-ce que je peux emmener le bébé ou pas ?» Ce serait peut-être un peu plus tranchant pour eux de dire oui ou non. Mais là, la question de « Est-ce que je peux lui faire les soins ?» est beaucoup plus subtile. Et les parents ont rarement l'opportunité, le choix psychologique de dire oui ou non, en fait. Et puis pour eux, c'est normal, etc. Et où se situe la normalité, d'ailleurs? Et comment accompagner sans faire perdre la confiance des parents vers leur médecin? C'est une très belle question qu'elle aborde à de nombreuses reprises sous plein d'angles, et j'ai trouvé ça génial dans beaucoup de situations différentes, et le comment on gère, et on gère jamais de la même façon, par rapport à la maman, par rapport à l'équipe, par rapport à la présence du papa ou non, à l'état du bébé, etc. Donc c'est très très intéressant. Un livre... vraiment chouette. Et enfin, elle parle de l'état de l'AAD en France et de toutes ses difficultés, notamment de tous les risques avec un AAD. Elle a eu une expérience assez ennuyante, dirons-nous, notamment lors d'un accouchement qui, en soi, s'est plutôt bien passé jusqu'au moment où ce bébé est sorti sans vie avec son placenta. C'est-à-dire que donc le placenta ne l'avait pas oxygéné les dernières minutes de vie, alors qu'elle sentait encore le pouls du bébé juste avant l'expulsion. Donc il est resté un court temps en anoxie, donc sans oxygène dans le sang. Elle l'a réanimé et en soi tout s'est très bien passé, ils ont appelé le SAMU, bref. Mais en fait le médecin du SAMU, qui sur le coup elle lui a dit qu'elle avait fait un travail remarquable, etc., très sympa, lui a proposé de venir avec les parents pour que les parents se sentent moins perdus à l'hôpital, etc., ben en fait, ce médecin a porté plainte en disant qu'elle utilise du matériel rouillé, qu'elle n'avait pas fait attention qu'il venait de marcher sur les ciseaux avant qu'elle coupe le cordon avec. Donc, ça montre bien la différence de culture de l'accouchement qu'il peut y avoir entre l'hôpital et l'accouchement à domicile, sachant que non, hein, elle n'avait pas marché sur ses ustensiles. D'ailleurs, quand elle a été convoquée au poste de gendarmerie suite à cette plainte, elle leur a posé la question de « Et il m'a laissé couper le cordon avec un ciseau sur lequel j'avais marché ?» Et moi, j'aime beaucoup cette question de « En fait, tout le monde a sa responsabilité, il y a un moment. » Et le papa a pu d'ailleurs dire après que non, c'était absolument pas le cas. Les ciseaux avaient été tout le long sur la table, dans la boîte de stérilisation. Mais en fait, le plus gros risque lors des AAD pour les sages-femmes, ce sont les plaintes qui peuvent être émises, non pas par les familles. Les familles portent très, très, très rarement plainte, mais... les plaintes sont portées par l'Ordre national des sages-femmes, par les hôpitaux, par le SMUR, par tous ceux qui finalement n'étaient pas là, par respect pour leur profession. Alors qu'au final, le risque qu'elles prennent souvent, c'est de transférer. C'est souvent transférer qui, elles, va finir par leur retomber dessus. Et quand elles transfèrent, c'est rarement trop tard. Au contraire, c'est souvent en avance parce que, en fait, leur but, c'est pas de tuer les gens. Et qu'au contraire, elles vont préférer transférer pour rien que de ne pas transférer et d'avoir la mort d'une maman ou d'un bébé ou des deux sur la conscience. Les risques qui permettent de légitimer un transfert sont quand même assez nombreux et en même temps assez rares. Ça va être un arrêt du travail ou un arrêt de l'évolution du travail depuis trop longtemps. Si ça fait trop d'heures après que la poche des os est rompue, si le placenta ne descend pas et s'il y a un risque hémorragique quel qu'il soit. Ça fait déjà pas mal de risques, mais en soi, ces risques sont largement diminués quand il n'y a pas de sein tout sinon et quand on est sur un accouchement à domicile. D'ailleurs, les stats de l'an dernier de l'APAD, donc sur 2019, les chiffres de l'APAD montrent qu'avec un taux de transfert à 11,33%, on obtient 900 et des bananes naissances à domicile avec une sage-femme AAD, ce qui représente 0,14% des naissances en France en 2019. C'est risible. Mais malheureusement, tout ce qui est mis en place pour qu'elles ne puissent pas exercer dans de bonnes conditions ne les aide vraiment pas. Il y a un problème d'assurance avec des assurances qui sont émises pour des budgets de 25 000 euros annuels, ce qui n'est pas accessible aux sages-femmes malgré le fait que certaines aient des dépassements d'honoraires. Le fait qu'elles risquent à chaque fois de perdre leur diplôme, etc., parce que les plaintes ne viennent pas des patients, mais bien de l'Ordre national des sages-femmes ou des gynécos ou des CHU ou des centres hospitaliers d'ailleurs. Donc c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'Hélène Goninet, du coup, s'est reconvertie pour accompagner les parents avant, après l'hôpital, pour qu'ils s'affirment et puis qu'ils fassent respecter leur choix. Cette semaine, je vous ai sélectionné un extrait pour mettre en avant le cordon ombilical et sa valeur jusqu'au dernier moment. L'extrait s'intitule donc « Le cordon ». Il commence à la page 241. C'est ainsi que Valérie, Cyril et Mathieu viennent me retrouver. Ils ont à nouveau envie et confiance pour une prochaine naissance à la maison. Nous reparlons bien sûr de la naissance de Mathieu. Il n'a aucune séquelle et n'a donc pas souffert à sa naissance. L'hypothèse de Jacqueline se confirme. Sa saturation en oxygène trop élevée à la naissance a sans doute nécessité du temps pour baisser puis pour déclencher le réflexe de respiration. Valérie précise « Si jamais il se passe la même chose, on refera pareil, hein Hélène ?»« Non, on ne refera pas la même chose. De toute façon, ça serait bien étonnant que cela se passe de la même façon. Le cas échéant, j'attendrai, je surveillerai simplement la circulation du sang dans le cordon et je ne m'exciterai pas à brusquer le bébé. » La grossesse se passe bien. Valérie m'appelle un soir et c'est avec un peu d'appréhension tout de même que j'entre dans la nouvelle maison où ils ont emménagé entre-temps. Les parents de Valérie sont venus chercher Mathieu pour permettre à leur fille de se détendre, de lâcher prise, sans se soucier du petit garçon qui commençait, comme par hasard, à être passablement énervé ce soir-là, avant même que les contractions ne débutent. Le travail est bien avancé, 4 cm. Il se poursuit à un bon rythme. Bientôt, Valérie sent que le bébé descend, puis qu'il pousse. En quelques contractions, il est dehors. Comme son frère, exactement comme son frère, il naît tout mou, sans réaction. Il m'est difficile d'évaluer la couleur de sa peau à la lumière d'une petite lampe de chevet qui m'éclaire très faiblement. Je pose mes doigts sur le cordon, il bat à un bon rythme. Le sang circule du placenta au bébé, comme quand ce dernier était dans l'utérus quelques secondes plus tôt. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. J'attends sereinement. Tant que le cordon bat, le bébé est oxygéné par son placenta. En attendant le réflexe de la respiration pulmonaire. Je patiente donc en surveillant les battements du cordon. Un réveil en évidence cette fois-ci montre le temps qui s'écoule. Valérie et Cyril parlent à leur bébé en le caressant doucement et en l'appelant à la vie. 6 longues minutes se sont écoulées. 6 minutes, c'est très long quand on attend des signes de vie. Moins long que les 30 voire 40 minutes de la naissance de Mathieu. Mais là, je veille au grain, les doigts sur le cordon de sang vital. Bébé Léo pousse un petit cri, puis un autre. Il s'ébroue, crispe ses petits poings, et c'est parti. Il rampe vers le sein et l'attrape. Valérie a les larmes aux yeux. J'ai quand même eu un peu peur. Cette fois-ci, je n'ai pas eu peur. Je suis restée dans l'observation de ce phénomène que je n'observerai jamais plus. Garder un bébé relié à son placenta est la première des réanimations et la plus efficace tant que le sang continue de circuler. Pourquoi, à l'hôpital, veut-on couper les cordons si vite ? Et voilà, c'est déjà presque la fin. Il est temps de vous faire mes derniers petits points. J'espère que l'extrait présenté vous a plu, que le livre vous plaira, autant qu'il m'a plu de le lire pour vous. Commençons par le point négatif. C'est que c'est un format de lecture assez inhabituel d'avoir des témoignages de la part de Sacha, mais non pas des parents. Ce qui reste quand même très intéressant, mais sur le coup, c'est déroutant. Voilà. Le format de lecture aussi, c'est-à-dire que D'abord, elle commence par sa première année de sage-femme libre en Ardèche, et puis après les études, et puis après on repart sur la deuxième et la troisième année de sage-femme, et après on repart dans le passé quand elle s'est mariée, puisqu'il y a aussi une part d'autobiographie, etc. Au niveau chronologie, moi ça m'a déroutée. Après, en point positif, par contre, il y en a 15, c'est-à-dire que déjà, c'est super d'avoir un livre récent au niveau notamment de l'état des lieux sur la AD. Ça, c'est chouette. Au niveau d'avoir un point de vue de sage-femme, en fait, c'est vraiment chouette aussi. Je me plains que les témoignages ne soient pas ceux des parents, mais en fait, non, c'est génial d'avoir un autre point de vue et de se rendre compte à quel point la sage-femme peut avoir 1 000 choses dans sa tête pendant un accouchement et comment elle va réussir à les gérer. C'est super bien fait. Un livre qui parle du placenta. Déjà, ça se fait rare, c'est chouette. Elle parle des violences obstétricales sans les critiquer, sans les juger, plutôt en les démontant et en expliquant le pourquoi du comment et aussi du coup bah, comment est-ce qu'on pourrait changer les choses. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que ça fait état aussi d'une autre époque où il n'y avait pas le téléphone, où il n'y avait pas les portables, il y avait le téléphone fixe et comment elle s'en adaptait et comment c'était beau ce mode de travail. Voilà. Donc, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. C'était Aurore Lebecq sur D'où la lire. Je vous ai présenté Journal d'une sage-femme nature de Hélène Goninet, édité par Mama Édition. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, voire à le noter. Toute note m'aidera à le faire connaître et à donner les clés à de plus en plus de femmes enceintes. Et à très bientôt!